Alors, mon neveu, à quand la noce? Demanda Ptolémée. Je ne t'attendais pas si vite. Mon oncle, il faut que vous m'aidiez, s'écria Guccio. Savez-vous que ces gens sont des monstres, et qu'ils ont interdit à Marie de me revoir, que leur cousin du Nord est vieux et difforme, et qu'elle va sûrement en mourir? Quels gens, quels cousins? Demanda Ptolémée. J'ai l'impression, mon garçon, que tes affaires n'ont pas avancé comme tu l'espérais. Conte-moi donc cela en y mettant un peu d'ordre. Guccio fit alors à son oncle le récit de sa visite à Naufle. Avec un sens tout latin de la tragédie, il ne manqua pas de noircir le tableau. La jeune fille était séquestrée. Elle avait risqué la mort, courant à travers les champs pour supplier Guccio de la sauver. La famille de Crécy voulait la marier de force à un lointain parent, personnage chargé de toutes les disgrâces corporelles et morales. « Un vieillard de 45 ans !» s'écria Guccio. « Jeune vieillard !» Mais Marie n'aime que moi, elle me l'a dit et redit, et je sais bien qu'elle mourrait si on la contraint d'épouser un autre. Mon oncle, il faut m'aider. Mais de quelle manière veux-tu que je t'aide, mon ami? Il faut m'aider à enlever Marie. Je l'emmènerai en Italie, nous séjournerons là-bas. Spinello Tolomei, un œil clos, l'autre ouvert, observait son neveu d'un air mi-inquiet, mi-amusé. Je t'avais averti, mon garçon. Je pensais bien que cela ne serait pas si facile et que tu avais tort d'aller t'enticher d'une fille de noblesse. Ces gens-là n'ont pas leur chemise à eux. Ils nous doivent jusqu'au lit dans lequel ils dorment, mais ils nous crachent au nez si nos garçons veulent y coucher. Oublie cette aventure, crois-moi. Lorsqu'on nous fait insulte, c'est généralement que nous avons tendu la tête pour la recevoir. Choisis donc quelques belles filles de nos familles, fortement pourvu de l'or de nos banques, qui te donnera d'eau ses beaux enfants, et dont le char éclaboussera les pieds crottés de ta jouvencelle de campagne. » Guccio eut une soudaine inspiration. « Saint-Venant, n'est-ce pas le nom d'un des alliés d'Artois ? » s'écria-t-il. « Et si j'allais porter le message de Monseigneur Robert, et puis trouver ce Saint-Venant, le provoquer et le tuer ?» Il avait déjà la main sur la dague. « Bonne chose, dit Ptolémée, et qui ne fera pas de bruit. » Et puis les Crécy choisiront pour ta belle un autre parti en Bretagne ou en Poitou, et il faudra que tu ailles le tuer aussi. Oh, tu te prépares du travail.
J'épouserai Marie ou personne, mon oncle, et je ne laisserai personne l'épouser.
Ptolémée éleva les mains au-dessus de sa tête.
Là voilà bien la jeunesse. Dans 15 ans, de toute façon, ta femme sera laide. Et tu te demanderas en la regardant si ce visage fripé, ce gros ventre, ces mamelles pendantes valaient vraiment la peine que tu t'es donnée.
Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et puis je ne pense pas à 15 ans en avant, mais au jour où ce suit. Et je sais que rien au monde ne peut me remplacer, Marie. Elle m'aime.
Elle t'aime, dis-tu. Alors, mon garçon, si elle t'aime si fort, le mariage n'est pas un état indispensable pour être heureux à deux. L'évêque de Paris te tiendrait évidemment un autre langage. Mais moi, je t'invite à te réjouir de ce qu'on veuille donner à cette beauté un mari goitreux, difforme, et qui perd ses dents, selon le portrait que tu m'en fais sans l'avoir vu. Rien ne peut mieux te favoriser.
Ah, mon oncle, vous ne connaissez pas Marie, sa pureté, ni la force de sa religion. Elle ne sera à moi que par mariage. Et jamais elle n'appartiendra à celui auquel elle sera unie devant Dieu. Pour ce qui me regarde, je n'accepterai pas de la partager. Si c'est ainsi, je l'enlèverai sans votre aide. Dussions-nous courir les routes comme des gueux et mourir de froid en passant les montagnes? Mais d'abord, je vais aller trouver la reine Clémence. Elle me connaît et me tient en amitié.
Ptolémée frappa légèrement la table du bout des doigts. Son œil ordinairement clos s'était brusquement ouvert.
« Maintenant, tu vas te taire, » dit-il sans presque hausser le ton. « Tu n'iras trouver personne et surtout pas la reine, car nos affaires ne vont pas si fort depuis qu'elle est là que nous ayons besoin d'attirer l'attention sur nous par un scandale. La reine est toute bonté, toute charité, toute pitié, oui, je sais. En attendant, depuis qu'elle a pris empire sur l'esprit du roi, nous, les Lombards, on nous taille jusqu'au sang. C'est avec notre bien que le trésor fait l'aumône. On nous reproche de prêter avec usure. On nous charge de tous les péchés du royaume. Monseigneur de Valois nous défend peu et nous déçoit beaucoup. La reine Clémence te dispensera de douces paroles et force bénédictions, mais je connais des gens à la cour qui se complairaient à te faire appliquer le châtiment réservé aux séducteurs de demoiselles nobles, ne serait-ce que pour retourner le grief contre moi, capitaine général des Lombards. Le vent ne souffle plus du même côté. Au vrai, on ne sait plus de quel côté il souffle. Les amis d'Enguerrand de Marigny, qui ne m'avaient guère en grâce, ont été libérés et forment partie autour du comte de Poitiers. Mais Guccio n'entendait rien. Il se moquait pour le présent des taxes, des ordonnances et des dispositions du pouvoir. La perspective même de la prison et d'un procès ne l'effrayait pas. Il s'obstinait dans son projet. Sans l'appui de personne, il enlèverait Marie. « Mais pauvre disgracié !» dit Tholoméi en se touchant le front. « Vous ne ferez pas 10 lieues sans être arrêté. Ta donzelle sera mise au couvent quant à toi. Ah, tu veux l'épouser? Bon, je vais tenter de t'en fournir le moyen, puisqu'il semble que ce soit la seule façon de te guérir. » Et sa paupière gauche retomba. « Folie pour folie, puisque fou il y a, ce sera toujours moins grave que de te laisser agir seul, » ajouta-t-il. « Mais pourquoi doit-on servir les sottises de sa famille? » Il agita une clochette, un commis se présenta. Va au couvent des frères Augustins, lui dit Tholoméi, me querir Fra Vincenzo, qui est arrivé l'autre matin de Pérouse.